Il est 5h en temps universel, 6h ici à Paris.
Clotilde Dumay.
Le journal, bonjour Gaëtan Plenel.
Ah, bonjour Clotilde, bonjour à tous.
60 km de cortège funèbre aujourd'hui en Israël.
Entre Tel Aviv et les environs du kibboutz d'où était originaire la famille Bibas, la mère et ses deux enfants vont être enterrés. Leurs corps ont été remis par le Hamas la semaine dernière. Le Royaume-Uni a choisi son camp selon le Rwanda qui dénonce les sanctions annoncées par Londres contre son pays alors que le M23 soutenu par Kigali poursuit son offensive dans l'est de la RDC. On y revient dans ce journal. On parlera aussi de la visite hier du chef du Pentagone à Guantanamo. Les États-Unis veulent en faire un immense centre de rétention pour migrants. Dans ce journal également, les ventes de Tesla en chute libre le mois dernier en Europe. Et puis un avant-goût du choix musical du jour sur RFI et le nouvel album de Céron, le roi du disco à la française.
Le Hamas le confirme, donc un accord a été trouvé avec Israël.
Un accord pour libérer 602 prisonniers palestiniens qui devaient l'être théoriquement samedi, mais ces libérations avaient finalement été annulées par les autorités israéliennes pour protester contre ce qu'elles qualifient de cérémonie humiliante. Ces otages israéliens, obligés de monter sur un podium face à la foule, entourés d'hommes armés, avant d'être remis à la Croix-Rouge. Un accord, on le disait, a donc été trouvé. Les 602 prisonniers palestiniens vont bien être libérés. Le Hamas, lui, doit rendre 4 nouveaux corps sans vie d'otages.
Et la semaine dernière, déjà, 4 corps avaient été remis à Israël.
Et parmi eux, ceux de la famille Bibas, Shiri, la mère et ses deux enfants, Ariel et Kfir, 4 ans pour le premier, 8 mois et demi pour le second. Tous les 3 sont morts en captivité, leurs obsèques doivent avoir lieu aujourd'hui. Pierre-Olivier, vous êtes notre envoyé spécial à Jérusalem. On attend des milliers de personnes le long des routes pour rendre hommage à cette famille devenue, malgré elle, le symbole du drame du 7 octobre.
Le cortège funèbre doit relier Tel Aviv aux environs du kibboutz où vivait la famille Bibas, juste à côté de la bande de Gaza. Une 60aine de kilomètres de routes et d'échangeurs sur lesquels le forum des familles d'otages appelle tous ceux qui le souhaitent à accompagner les Bibas vers leur dernière demeure. Tout au long du parcours, ce sont donc des milliers de personnes massées qui devraient rendre un dernier hommage aux deux garçons, Kfir et Ariel, morts en captivité alors qu'ils avaient été capturés par le Hamas à 8 mois et 4 ans. Un hommage pour leur mère, Shiri, également. Ses obsèques viennent d'ailleurs clore une série d'imbroglios morbides. Il y a presque une semaine, jeudi dernier, quelques heures après la remise des corps à Israël, les médecins légistes avaient certifié que la dépouille de Shiri n'était pas la bonne, échangée avec celle d'une habitante de Gaza avant d'être finalement retrouvée. Une situation qui avait encore plus suscité la compassion des Israéliens tout en creusant la douleur provoquée par le retour de ces corps. La mise en terre qui se tiendra dans le strict cadre familial devrait permettre à toute une nation d'entamer son deuil. Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Et début des obsèques prévues dans moins d'une heure à 6h temps universel.
Et se pose toujours Gaëtan la question de la suite du cessez-le-feu entré en vigueur à Gaza le 19 janvier dernier.
Oui, la deuxième phase, celle censée mettre fin définitivement à la guerre, doit théoriquement débuter ce samedi. Sauf que les négociations n'ont toujours pas commencé. Alors ce matin, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, affirme qu'une équipe de négociateurs israéliens est attendue soit à Doha, soit au Caire pour reprendre les discussions. Lui, Steve Witkoff, est attendu dans la région dans les prochains jours, possiblement pour tenter d'obtenir une prolongation de la première phase de l'accord. En parallèle, l'armée israélienne était toujours présente hier dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où elle a intensifié ses opérations ces derniers jours, forçant les 15 000 habitants du camp à fuir. Hier, face au Conseil de sécurité de l'ONU, l'émissaire onusienne pour le Proche-Orient a mis en garde contre les appels à l'annexion de la Cisjordanie occupée. Pour elle, les transformations en cours dans la région représentent peut-être, je cite, notre dernière chance de parvenir à la solution à deux États.
Les Nations Unies, qui pour la première fois vendredi ont directement condamné le Rwanda pour son soutien au M23 qui poursuit son offensive dans l'est de la République démocratique du Congo.
Et après la condamnation de l'ONU, les sanctions du Royaume-Uni qui dénoncent notamment la prise de Goma et de Bukavu, une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, selon Londres, qui annonce donc suspendre la majorité de ses aides financières à destination du Rwanda. Alors ça ne concerne pas les fonds destinés aux plus vulnérables, mais le gouvernement rwandais n'a pas tardé à réagir, Lucie Mouillot.
Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères rwandais, le Royaume-Uni a, je cite, « désormais clairement choisi un camp dans le conflit ». Les mesures punitives annoncées par Londres sont regrettables pour Kigali, qui déclare qu'elles n'aident en rien la RDC et ne contribuent pas à la recherche d'une solution politique durable. Il est déraisonnable de s'attendre à ce que le Rwanda compromette sa sécurité et celle des Rwandais, poursuit le communiqué, ajoutant que le pays continuera d'exiger des garanties en la matière. Les annonces britanniques interviennent moins d'une une semaine après la décision du Trésor américain de sanctionner le ministre de la coopération régionale James Kabarebe, présenté comme un acteur central du soutien de Kigali au groupe armé du M23. Figure historique de l'appareil sécuritaire rwandais, le général à la retraite a dénoncé ce mardi, pendant une réunion avec des partis politiques, les mesures punitives contre le Rwanda qui, selon lui, compromettent les efforts de paix menés au sein des processus de négociation fusionnée de Luanda et Nairobi. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Au Tchad, les résultats sont encore provisoires au lendemain des élections sénatoriales, mais le verdict est assez clair. Le parti au pouvoir l'emporte à une écrasante majorité. 45 sièges sur les 46 qui se jouaient selon l'Agence nationale des élections. Et la représentation du MPS au Sénat devrait se renforcer davantage encore puisque c'est le président qui doit nommer lui-même les 23 autres sénateurs. Son parti dispose déjà d'une large majorité à l'Assemblée nationale.
Aux États-Unis aussi, le président Donald Trump a la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants.
Ce qui n'empêchait pas des dissensions républicaines au sein de cette dernière, au sujet du budget. Mais finalement, les élus ont bel et bien adopté hier une résolution fixant une feuille de route budgétaire, une première étape avant une autre adoption, celle de la loi budgétaire pour 2025, afin de financer les mesures phares de Donald Trump. Ça devrait passer par des réductions d'impôts et des dépenses publiques fédérales.
Le ministre américain de la Défense est élu en visite hier sur la base militaire de Guantanamo.
La base autrefois réservée aux détenus soupçonnés de terrorisme islamiste après le 11 septembre. Mais désormais, Trump veut en faire un centre de rétention géant pour quelques 30 000 migrants. Correspondance depuis Miami de David Thompson.
La base militaire de Guantanamo Bay, ligne de front de la guerre menée contre la frontière sud des États-Unis. Voilà ce qu'écrit sur X le ministre de la Défense de Donald Trump en arrivant sur l'enclave américaine de Cuba. Selon Pete Hegseth, rien de plus normal au fait que l'armée soit mise à contribution pour lutter contre l'immigration clandestine. La protection du territoire souverain des États-Unis, dit-il, est la mission du ministère de la Défense et nous mettons rapidement en place les décrets du président sur la sécurisation de la frontière. L'un de ces décrets signés par Donald Trump le 5 février entend transformer en méga centre de détention capable d'accueillir jusqu'à 30 000 migrants. La base de Guantanamo, devenue célèbre pour avoir servi de prison extrajudiciaire aux terroristes de l'après 11 septembre. Objectif, désengorger les centres de rétention situés sur le sol américain et ainsi accélérer le rythme des expulsions. Ces migrants présentés comme particulièrement dangereux par les autorités américaines sont acheminés les chaînes aux pieds par avion militaire à Guantanamo. Depuis début février, 170 ont déjà transité sur cette base avant d'être expulsés vers le Venezuela. David Thompson, Miami RFI.
Et puis aux États-Unis, toujours, c'est là qu'est attendu vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
À Washington, où il pourrait signer un accord portant sur les minerais. Trump demande à l'Ukraine l'accès à ses ressources minières pour rembourser les milliards de dollars d'aide versés par la précédente administration américaine. Les dirigeants de l'Union européenne, eux, doivent se réunir par visioconférence dans la journée pour parler là aussi de l'Ukraine. L'occasion pour le président français Emmanuel Macron de raconter plus en détail sa rencontre de lundi avec son homologue américain à Washington. Demain, c'est le Premier ministre britannique Keir Starmer qui se rendra à son tour dans la capitale américaine. Keir Starmer qui a annoncé hier une hausse des dépenses de défense de son pays, une hausse qu'il qualifie d'inédite depuis la fin de la guerre froide.
Et augmenter les dépenses militaires, c'est aussi ce que pourrait faire l'Allemagne.
C'est en tout cas l'un des défis qui attend le futur chancelier Friedrich Merz. Et ce ne sera pas facile alors que le pays est soumis à un frein à l'endettement qui l'empêche normalement d'augmenter ses dépenses. Alors face au blocage par les textes, Berlin cherche des solutions. Correspondance de Pascal Thibault.
L'alliance transatlantique est remise en cause par l'administration Trump. L'Europe doit faire plus pour sa sécurité et soutenir l'Ukraine. Et l'armée allemande reste toujours sous-équipée. Il y a urgence. Friedrich Merz veut agir. Mais comme Gulliver, l'Allemagne est un géant enchaîné et bloqué. Raison, une règle constitutionnelle, le frein à la dette. Le déficit budgétaire ne peut pas dépasser 0,35% du produit intérieur brut. Une règle aujourd'hui décriée à l'heure où des investissements urgents sont nécessaires, pas seulement pour l'armée. Friedrich Merz a exclu aujourd'hui une réforme à court terme de cette règle, pour laquelle une majorité parlementaire des deux tiers est nécessaire, mais une autre solution pourrait être retenue, la création d'un fonds spécial non soumis aux règles budgétaires. 100 milliards avaient été ainsi mobilisés après le début de la guerre contre l'Ukraine, 200 milliards supplémentaires pourraient l'être dans les semaines qui viennent. Faute de majorité des deux tiers pour une telle mesure au sein du nouveau Bundestag, le sortant, encore en poste pour un mois, pourrait être sollicité. Pascal Thibault, Berlin RFI.
5h10 en temps universel. Sale mois de janvier pour Tesla.
Les ventes du pionnier des voitures électriques ont chuté de moitié en Europe. L'annonce a été faite hier, faisant dégringoler le cours de l'entreprise de plus de 8% à la bourse de New York. Une chute des ventes qui s'explique par la morosité du marché, bien sûr, mais pas seulement. La faute aussi aux prises de position politiques du patron de Tesla, Elon Musk, désormais soutien indéfectible de Donald Trump. Agnieszka Kumor, il ferait fuir les acheteurs.
La tendance est négative sur l'ensemble de l'Europe. En moyenne, une baisse de 45% sur un an. Moins 75% en Espagne, moins 63% en France. Un peu plus de 9000 Tesla ont été immatriculés sur le continent en janvier dernier, contre un peu plus de 18000 un an auparavant, d'après les données publiées par l'Association des constructeurs européens. L'image de Tesla a fortement souffert des frasques politiques d'Elon Musk. Résultat, seulement 11% des Suédois ont une image positive de la marque contre 19% précédemment. D'autres facteurs expliquent aussi cette chute, notamment la concurrence chinoise. Les voitures électriques du fabricant automobile chinois BYD font fureur au Royaume-Uni, une montée en puissance rendue possible par les importantes subventions accordées par Pékin aux constructeurs chinois.
La précision signée Agnieszka Kumor.
Allez, on termine ce journal en musique, Gaëtan, avec un avant-goût de notre choix musical du jour.
Céron, le roi du disco à la française qui avait marqué les esprits, on s'en souvient, lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Le revoici avec un nouvel album, Disco Symphony. José Marignon, on en pense quoi ?
À 72 ans et après plus de 50 ans de carrière, Céron, chanteur, compositeur et surtout batteur autodidacte, règne sur la planète disco avec 30 millions d'albums vendus. C'est aux États-Unis qu'est née cette musique de fête dans les années 70, dans les boîtes de nuit, pour libérer les corps et les esprits. Et pourtant, l'un des maîtres de ce style est français. Star mondial, Céron a fait danser les mini-jupes du monde entier sur ce tube planétaire de 1977, Super Nature. Pour son nouvel album, Disco Symphony, il a travaillé avec l'Orchestre Symphonique de Cannes. Riche de 21 morceaux, ce projet compile ses plus grands titres, mais réenregistré et réorchestré en collaboration avec le chef d'orchestre oscarisé Randy Kerber. Ce qui rend cet album à la fois moderne et intemporel à l'image de Céron.
Céron en concert, je le signale, le 1er mars à Lille. Ce sera donc notre choix musical du jour avec José Marigno et avec vous, Clotilde Dumais, dans RFI Matin. Rendez-vous juste avant 9h, heure de Paris.
Eh oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gaëtan Plenet, pour le journal. Allez, il est à 5h13, en temps universel, une heure de plus ici à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Au cours des trois prochaines heures, nous serons notamment au Proche-Orient. Alors que la trêve tient toujours entre Israël et le Hamas, un accord a finalement été trouvé pour libérer 602 prisonniers palestiniens en échange des corps de 4 otages israéliens. L'État hébreu qui intensifie parallèlement ses opérations en Cisjordanie occupée, des milliers de personnes ont fui le camp de réfugiés de Jenin face au déploiement des forces israéliennes.
Les Israéliens ont envoyé des drones avec des haut-parleurs au-dessus du camp pour nous demander d'évacuer avant d'intervenir. On n'a rien pris, seulement les habits qu'on avait sur nous. On a tout laissé, la maison, les passeports, tout.
Un témoignage recueilli à Jenin par Pierre-Olivier, envoyé spécial de RFI, reportage à écouter dans nos journaux. On va aussi parler de la visite attendue du président ukrainien à Washington, Volodymyr Zelensky, qui a accepté les termes d'un accord sur les minerais ukrainiens avec les États-Unis. Les Américains, eux, pendant ce temps, démantèlent toujours l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. On verra dans quelques minutes quelles sont les conséquences en Inde. Et puis face à cette révolution, comment les autres banques de développement envisagent-elles l'avenir ? Question posée à Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement. De l'argent, en revanche, les États-Unis sont prêts à en mettre dans la conquête spatiale. Reportage sur RFI sur le chantier de construction de la future station spatiale de la NASA qui gravitera autour de la Lune.
Cette partie, par exemple, sera complètement remplie de matériel informatique et de provisions pour la station. Plus de 5 tonnes en tout.
Un reportage à écouter aux alentours de 8h15, heure de Paris. Les États-Unis qui visent même au-delà de la Lune, la conquête de Mars. On y reviendra dans la foulée avec notre correspondant à Washington. Et puis le grand invité international à 6h20, TU, 7h20, heure de Paris, pour parler des enjeux de la COP16 sur la biodiversité. Philippe Grand-Cola, directeur de recherche au CNRS, écologue et directeur adjoint scientifique de l'écologie et l'environnement au CNRS. Voilà nos invités, nos reportages, nos chroniques, nos journaux, nos revues de presse. C'est le programme de ces 3 prochaines heures. Mais d'abord, à la une en Asie aujourd'hui, les conséquences en Inde donc de la liquidation de l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international, dans le viseur de Donald Trump, qui affirme vouloir lutter contre le gaspillage d'argent public. Depuis une semaine, le président américain s'appuie sur l'Inde pour justifier ses coupes budgétaires. On rejoint notre correspondant sur place, Com Bastin. Bonjour, Com.
Bonjour.
Alors, vu d'Inde, les attaques du président américain ont provoqué des réactions ambivalentes.
Oui, tout a commencé lorsque Donald Trump s'est indigné de 20 millions d'euros soi-disant dépensés pour favoriser l'opposition en Inde via l'USAID. Selon le président américain, cette somme a servi à augmenter la participation aux élections, mais en privilégiant les électeurs opposés au dirigeant Narendra Modi. Alors, pourquoi dépenser tout cet argent? Je suppose qu'ils essayent de faire élire quelqu'un d'autre, a-t-il déclaré sur X, accusant en creux l'administration Biden d'ingérence contre son ami Modi. Sauf que le flou règne sur la véracité des sommes et les motivations politiques présumées. Selon plusieurs médias indiens, ces 20 millions ont en réalité été versés au Bangladesh. Voilà.
Mais ça n'a pas empêché, comme le BJP, le parti nationaliste hindou du Premier ministre, de se réjouir des sorties du président américain.
Car même s'il semble établi que ces allégations sont fausses, elles confortent le récit du nouvel hôte de Washington, mais aussi des partisans du Premier ministre indien. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2014, les nationalistes hindous soupçonnent l'Occident de vouloir la peau de Narendra Modi. Beaucoup d'ONG sont accusées d'être des agents d'influence, voient leur financement étranger interdit. Certaines, comme Amnesty International, ont dû fermer. George Soros, milliardaire américain affilié aux démocrates, est accusé d'ingérence contre le pouvoir en place. Bref, le président des États-Unis affirme lui-même que son pays a interféré dans la démocratie indienne. C'est du pain béni pour le gouvernement indien, pour qui les fonds étrangers servent à un néocolonialisme déguisé.
Alors, au-delà de ces 21 millions qui sont contestés, quelles sont les conséquences de la fin de l'USAID pour l'Inde ?
C'est la vraie question et elle est malheureusement ignorée du fait de cette polémique. 750 millions d'euros ont été investis en Inde sur la période 2023-2024. Selon les données du ministère des Finances, cette somme ne concerne pas du tout la politique, mais des projets dans l'agriculture, l'eau, l'énergie renouvelable, la santé, l'hygiène. Comme partout dans le monde, ces défis cruciaux vont faire les frais du retrait budgétaire américain. Alors le Congrès, le principal parti d'opposition en Inde, très affaibli aujourd'hui, affirme que répéter les mensonges de Donald Trump est une insulte à la souveraineté du pays, mais il peine à se faire entendre. En tout cas, l'Inde est un des seuls endroits au monde où le pouvoir en place se réjouit ouvertement de la fin de l'aide américaine au développement.
Com Bastin, correspondant de RFI en Inde, merci beaucoup. La fin de l'USAID qui a aussi des conséquences sur les ONG en Thaïlande et dans l'Asie du Sud-Est. C'est un article de Valentin Sebron que vous pouvez lire sur notre site internet rfi.fr. 6h18 à Paris et à Rome où les négociations se poursuivent à la COP16 sur la biodiversité. L'objectif est de trouver les financements pour arrêter la destruction de la nature d'ici 2030, mais jusqu'à présent, les pays du Sud et du Nord n'ont pas réussi à s'accorder. Et vous allez en parler sur RFI Arnaud Pontus avec votre invité.
Oui, je reçois Philippe Grand-Cola, directeur de recherche au CNRS, écologue, auteur de Fake or Not, Biodiversité chez Tana Édition. C'est l'un des meilleurs experts de la biodiversité. Il va donc nous aider à nous y retrouver dans les chiffres, les risques, les enjeux. Les chiffres, ils sont tellement énormes qu'on n'y prête parfois plus attention. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales, 1 million serait aujourd'hui menacé. Les risque pour l'homme, c'est d'assécher les ressources de la nature alors qu'elle nous offre de quoi manger, boire, construire, nous chauffer, nous vêtir. L'enjeu est donc de freiner la catastrophe en injectant des milliards. Depuis hier jusqu'à demain, 300 représentants de 150 pays en discutent à Rome. Prolongation de la COP16 sur la biodiversité. On parle de tout cela avec l'écologue et chercheur Philippe Grand-Cola tout à l'heure.
Et rendez-vous aux alentours de 6h20, temps universel, 7h20, heure de Paris. Le texte a été voté la semaine dernière à 210 voix pour, 81 contre. En France, le Sénat a adopté une proposition de loi pour interdire le port de signes religieux, notamment le voile, dans l'ensemble des compétitions sportives, y compris au niveau amateur. Le texte doit désormais être examiné à l'Assemblée nationale, mais il est en tout cas soutenu par le gouvernement français. En attendant, après ce vote, les basketteuses de Marseille Panthères et de Balle en Main ont voulu organiser le week-end dernier un tournoi à destination de toutes les femmes. Reportage de Sophie Bourlet.
Dans ce gymnase des quartiers nord de Marseille, une trentaine de basketteuses s'échauffent.
Bienvenue chez le Marseille Panthères. On est très fiers de vous accueillir aujourd'hui dans ce tournoi organisé spécialement donc pour les femmes.
Les organisateurs sont inquiets à cause d'une possible nouvelle loi sur le port du voile dans le sport. Nadji Nehari est le fondateur du club Marseille Panthères.
Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Nous, on gardera notre motivation à essayer d'ouvrir le maximum les portes à toutes les filles et voir quelles solutions on pourra trouver justement pour qu'elles continuent à pratiquer une activité sportive parce que c'est important pour nous.
Dans le gymnase, Alicia, 21 ans, et Yumna, 16 ans, attendent leur tour pour jouer. Elles portent toutes les deux le voile.
Moi, j'ai commencé le basket très jeune, à l'âge de 5 ans. Je me suis sentie rejetée parce que du coup, on m'a exclu du championnat parce que je joue en club et du coup je l'ai mal vécu, j'ai carrément arrêté le basket. Il y a des hommes qui portent des couvre-chefs parfois et du coup ils ont le droit de jouer, mais les femmes, nous, quand on porte des couvre-chefs, on commence à nous remarquer, à nous mettre de côté, etc. donc je sais pas trop si c'est la religion ou parce qu'on est des femmes.
On peut même pas espérer faire même du sport, même juste avec un voile. J'ai l'impression que ça te dérange tout le temps. Ici, il y a beaucoup de voilés et du coup, je me sens inclus.
Merci beaucoup. Vous allez jouer là ?
Oui, on vient de jouer, nous.
On a fini.
On vient de gagner en plus.
Voilà. Les championnes.
Viviane Nora, fondatrice de l'association Balle en Main et joueuse professionnelle dans l'équipe nationale du Maroc. Au bord du terrain, elle donne des conseils aux jeunes joueuses en les couvant du regard. Elle reste déterminée.
On est fortement engagé à continuer à ouvrir nos espaces de pratique à toutes, parce que ça reste un droit fondamental pour nous en fait. Parce que quand on sait tous les apports que ça a, en termes de santé sociale, de santé physique, de santé mentale, en fait, de priver des femmes d'accéder à tous ces bénéfices, c'est impensable pour nous. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est bienvenue aux personnes qui ne trouvent pas leur place ailleurs, bienvenue chez nous vraiment.
La France est le seul pays au monde à vouloir interdire le hijab dans le sport, mesure jugée discriminatoire par l'ONU, qui demande son retrait. Sophie Bourlet, Marseille, RFI.
Un reportage à réécouter sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. C'est un grain de riz beaucoup moins polluant. Des chercheurs chinois et suédois ont mis au point une variété à haut rendement qui émet jusqu'à 70% de méthane en moins que le riz normal. Résultat obtenu après avoir découvert comment les substances chimiques libérées par les racines du riz influencent les émissions. C'est la question d'environnement du jour et nous sommes avec Cléa Broders depuis Pékin pour en parler. Bonjour Cléa.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Alors d'abord, comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces résultats ?
Alors, les scientifiques savent depuis longtemps que les rizières produisent du méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2 et qui est libéré lorsque des microbes décomposent les composés organiques des racines du riz. Mais jusqu'ici, ils ne savaient pas exactement quels composés étaient responsables. Alors aujourd'hui, une équipe de chercheurs chinois et suédois a identifié deux acteurs clés, le fumarate et l'éthanol. Ils ont découvert que les plants de riz libérant moins de fumarate et plus d'éthanol réduisent considérablement la production de méthane. Alors, des essais menés sur le terrain ici en Chine vont encore plus loin en traitant les rizières avec de l'éthanol ou de l'oxantel. C'est un composé qui empêche la dégradation du fumarate. Les chercheurs ont réussi à réduire des émissions de méthane d'environ 60% sans aucun impact sur les rendements agricoles. Au contraire même, ces essais ont montré des résultats assez impressionnants. En moyenne, le rendement atteint 8,13 tonnes par hectare, soit près du double de la moyenne mondiale qui est de 4,27 tonnes.
Donc, ce sont des avancées significatives.
Yeah. Sans aucun doute, le méthane est bien plus redoutable que le CO2, c'est-à-dire que sur 20 ans, son potentiel de réchauffement est 80 fois supérieur. Et les rizières en sont une source majeure qui sont responsables de 12% des émissions de méthane d'origine humaine. Il y a donc ici un véritable enjeu pour le climat. Et donc une réduction de 70% des émissions de méthane, c'est considérable. Si cette nouvelle variété de riz est adoptée à grande échelle, elle pourrait faire baisser de manière significative les émissions mondiales, ce qui serait un atout clé pour aider les pays à atteindre leurs objectifs climatiques, notamment ceux qui ont été fixés par l'accord de Paris. Mais ce n'est pas tout. On le sait, la population mondiale augmente et la demande de riz aussi. Alors jusqu'ici, produire plus signifiait aussi polluer plus, mais cette fois, la donne change. Cette variété offre de hauts rendements tout en réduisant les émissions, ce qui garantirait la sécurité alimentaire sans pour autant aggraver le réchauffement climatique.
Et comment est-ce que ça pourrait changer la façon de cultiver le riz globalement ?
Eh bien, les agriculteurs pourront continuer à cultiver le riz dans des champs inondés, ce qui protège naturellement les cultures contre les parasites, tout en réduisant, on le disait, les émissions de méthane grâce à la chimie des racines, et ça veut dire sans intervention complexe. Et son intégration dans l'agriculture mondiale pourrait être assez rapide. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie ont déjà des programmes bien établis de sélection de riz hybride, et cette innovation pourrait s'intégrer facilement dans des systèmes agricoles qui sont déjà existants. Mais l'impact ne s'arrête pas là, car les chercheurs travaillent aussi sur des engrais enrichis en éthanol ou en oxantel, capables de réduire encore davantage les émissions de méthane. Et donc ce serait une solution qui pourrait s'étendre à d'autres variétés de riz dans le monde entier.
Cléa Broders, en direct de Pékin pour la question d'environnement. Merci beaucoup. Il est 5h26 en temps universel, une heure de plus ici à Paris. Bon début de journée, ou peut-être même d'ailleurs bonne soirée hein, si vous êtes à l'autre bout du monde. En tout cas, un petit peu de musique pour vous accompagner où que vous soyez. Les Gribes, l'un des titres du nouvel album de l'artiste belgo-tunisien Jawar.
كي تنام العباد والنور في سيح وسطات الغريب فيك تبع وديانك وبني ديار فيك وزرع سواني حجرت فيك فيك خوذ شوارع فلسطين فيك استاد الغريب كي تشوف سما تثور سفر كل ارض تصيح سفر يهدى وجراري وشاش حريق كيف يوم باع يوم سفر كل قلبي يشيح سفر كيف باعوا بلادك بالحمير
Jawar avec son titre Les Gribes dans la playlist RFI. Restez avec nous dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine sur RFI.
تبع وديانك وبني ديار فيك وزرع سواني حجرت فيك فيك وخوذ شوارع فلسطين فيك استاد الغريب استاد الغريب استاد الغريب
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
quand l'addiction fragilise la famille.
Demain,
à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, nous parlons des atteintes dermatologiques.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Lamas Rock, Jarin FX et RFI Talent présentent Zar Electri. Découvrez Sarah Miel, le deuxième single du trio franco-marocain de Marseille. Disponible sur toutes les plateformes.